À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
Le brief spécial.
Bonjour à tous. Assiste-t-on à la métamorphose de la chenille en papillon ? Google tenait il y a quelques jours sa grand-messe à Las Vegas, en lieu et place de San Francisco, une première dans la cité du vice qui se voulait être une vitrine grand public de ses orientations.
Un dossier chaud, décodé par l'écho.
Les dernières décisions stratégiques favorisent un développement vers le cloud, un espace dématérialisé de stockage et de gestion de données, et l'intelligence artificielle. Pourquoi l'entreprise emprunte-t-elle cette direction et comment se positionne-t-elle face à ses concurrents ? Quels sont ses points forts et les éventuels obstacles sur son chemin ? Nous allons en parler avec Maxime Samain. Bonjour.
Bonjour Guillaume.
Vous êtes l'un de nos spécialistes de la tech à la rédaction de l'Écho et vous êtes allé sur place. Je suis Guillaume Cordeau et vous écoutez le brief spécial Google à la conquête du cloud et de l'IA. Maxime Samain, vous êtes glissé parmi la foule des 30 000 personnes qui se sont déplacées dans le Nevada pour découvrir les nouveautés de Google. Vous avez rencontré plusieurs de ses dirigeants. L'événement a été avancé de 4 mois. Qu'y avait-il de si urgent à annoncer ?
Google avait énormément de choses à annoncer et voulait être, pour une fois, par rapport à la séquence des derniers mois, dans l'action et plus la réaction. Ça va de l'évolution et de l'amélioration de l'infrastructure et des capacités informatiques qui alimentent l'IA, jusqu'aux dernières intégrations de Gemini, son modèle d'intelligence artificielle maison, en passant aussi par la création d'agents d'IA pour proposer des nouvelles utilisations de cette technologie.
Alors d'habitude, ce rendez-vous est réservé aux pros, mais cette fois-ci, Google a décidé de mettre le paquet sur le cloud et l'IA, et ça se traduit en chiffres.
C'est vrai que pour le public, Google, c'est un moteur de recherche, c'est vrai, mais c'est évidemment bien plus que ça. Et la division cloud chez Google prend de plus en plus d'importance. On le voit encore aujourd'hui avec un investissement annoncé de plus de 100 milliards dans l'intelligence artificielle et le cloud pour les prochaines années. Et ça représente surtout le futur technologique et financier de l'entreprise. C'est aussi le cas chez Microsoft, par exemple, ou chez Amazon, où l'arrivée de l'intelligence artificielle générative a fait exploser les besoins en puissance de calcul et en stockage de données, ce qui constitue le core du cloud. C'est clairement maintenant qu'il faut investir. C'était déjà hier, d'ailleurs. Microsoft l'avait bien compris et plus tôt que certains. Et Google réagit d'une certaine façon à ce niveau-là. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut investir dedans parce que le futur de ces entreprises technologiques est situé là, dans le cloud et dans l'intelligence artificielle.
Quitte à oublier d'autres activités, on parle des smartphones par exemple.
Pas forcément les oublier, mais elles peuvent passer au second plan. La bataille pour Google n'est plus de savoir est-ce qu'on est capable de produire un bon smartphone pour le grand public, mais plutôt de savoir est-ce qu'on est capable d'assurer le stockage, la gestion des données qui fournissent aussi la puissance de calcul de l'intelligence artificielle.
On en est où par rapport au développement ? C'est vraiment le tout début. Le cloud, on en parle depuis des années, mais l'IA en tant que telle, on la découvre un petit peu aujourd'hui.
Ça fait très longtemps que Google travaille sur le sujet. Par exemple, on a des innovations liées à l'intelligence artificielle qui sont dans les produits de Google depuis des années, que ce soit dans Maps, dans Waze, dans la recherche aussi, dans la retouche d'images. On s'en rend même pas forcément compte parce qu'ils n'en ont pas fait toujours la publicité à tort, puisqu'ils sont passés pour étant en retard sur la question, alors qu'ils travaillent dessus depuis des années.
Le cloud revêt donc une importance capitale pour le développement de l'intelligence artificielle par Google et les autres. Qu'est-ce que cet espace dématérialisé a changé aux pratiques informatiques ? Écoutez le vice-président de Google Cloud, Brad Calder, vous l'expliquer.
Avant l'avènement du cloud, les gens devaient construire leur propre base de données. Ils devaient assembler toutes leurs ressources informatiques ensemble. Et puis, quand le cloud a réellement décollé, c'était comme si tout était pris en charge pour vous. Vous le regardez fonctionner sans avoir à vous en soucier. Là, je peux simplement cliquer sur une application et la faire fonctionner comme ça. Pour moi, on est au même niveau de révolution de l'expérience des utilisateurs.
Maxime, alors on a compris ce qu'était le cloud, donc un espace dématérialisé. Stockage et gestion de données, ça permet également le développement de l'intelligence artificielle, mais comment on gagne de l'argent dessus ?
Très simplement, vous louez en fait cette capacité de stockage et cette puissance de calcul dématérialisée. dématérialisée d'une certaine façon, parce qu'on a quand même des data centers qui sont bien réels. On en a plusieurs ici en Belgique, notamment de Google et aussi de Microsoft. Et donc, c'est un abonnement mensuel qui est calculé en fonction de vos besoins, comme le nombre d'applications qu'on veut faire tourner dans le cloud et pas dans ses propres serveurs, dans son entreprise, par exemple.
C'est assez rentable par rapport à d'autres activités ou plus rentable? Est-ce qu'on a une idée?
C'est très rentable. Mais chez Google, par exemple, c'est rentable uniquement depuis l'année dernière. Ça demande énormément d'investissement au départ pour créer l'infrastructure mondiale. Google a encore étendu cette infrastructure mondiale qu'avait déjà Microsoft auparavant. Il y a eu un peu de retard à ce niveau-là. Et effectivement, une fois que les investissements initiaux sont faits, c'est de l'amélioration, c'est des updates. Mais l'infrastructure est là. C'est aussi des câbles sous-marins qu'il faut tirer entre les continents pour relier ces data centers entre eux. Donc ça demande énormément d'investissement. Mais sinon, c'est une activité très rentable. Bien plus, par exemple, que les activités historiques qu'ils ont tous tentées, c'est-à-dire les téléphones portables dont on parlait.
Maxime Samain, on a compris que Google était à la traîne face à ses concurrents. Comment, cependant, l'entreprise se distingue-t-elle dans sa stratégie face à l'avance de ses adversaires directs? Donc, on rappelle Microsoft et Amazon Web Services, le leader.
On peut résumer la stratégie de Google, en tout cas la nouvelle stratégie, parce qu'elle est très récente, elle a un peu plus d'un an. En un seul mot, c'est l'ouverture. C'est à la fois vrai dans les faits, dans la façon dont ils se comportent, et c'est aussi surtout un argument marketing qu'ils aiment bien marteler face à leurs concurrents qui n'ont pas du tout la même approche. Si on prend Microsoft par exemple, c'est complètement l'inverse. Microsoft veut à tout prix garder ses clients dans son écosystème qui va du système d'exploitation Windows que vous connaissez tous, de la suite logicielle Office que vous connaissez tous aussi, et c'est pas un hasard, de Teams qui a été séparé de ces différents logiciels, et tout ça va jusqu'au cloud qui s'appelle Azure chez Microsoft. Microsoft a des contrats assez contraignants pour ses entreprises et fait tout pour qu'un client de l'un de ses services n'aille pas voir ailleurs quand il en a besoin d'un autre. Une fois qu'il est client du cloud, c'est très compliqué pour une entreprise de sortir de ce type de contrat et de sortir de l'écosystème de Microsoft et d'aller par exemple chez un concurrent comme Google ou Amazon qui proposerait soit un prix plus avantageux ou d'autres types de services dont l'entreprise a besoin. Pour sortir de ce type de contrat chez Microsoft, il faut payer des pénalités. Ce que Google accepte de faire pour aller chercher des clients pour l'instant, mais c'est très contraignant et ça va jusqu'à des centaines de milliers de dollars en fonction de l'importance du contrat que l'entreprise a.
Ça doit être des très gros clients alors, hein.
On parle de très gros clients comme par exemple des clients publics. Ça a notamment été le cas pour l'État de Californie aux États-Unis qui a récemment essayé de changer de fournisseur et ça a été très compliqué et très coûteux.
Qu'est-ce que propose Google comme innovation également, service différent de ses concurrents?
Alors ils en proposent beaucoup. Peut-être trop d'un coup, c'est difficile de s'y retrouver. En quelques mois, ils ont présenté plus de 1000 innovations dans les produits qui sont liés au cloud et à Workspace, donc son univers lié au travail et aux entreprises. La plus grosse nouveauté, pour être plus concret, concerne l'incorporation de Gemini 1.5, donc son modèle d'intelligence artificielle, dans tous les services liés aux entreprises dans l'univers Workspace. Google a aussi présenté sa puce maison, Axiom, qui est la première puce que Google produit lui-même pour ses data centers liés à l'intelligence artificielle. C'est un pas très important pour eux parce qu'ils ne sont jamais rentrés dans ce type de production maison. Il y a aussi un assistant pour les développeurs, Gemini Code Assist, quelque chose qui est très important parce que l'aide de l'intelligence artificielle pour les codeurs est l'un des pans les plus prisés, les plus intéressants au niveau du travail en entreprise. Et ce qui a été présenté, ce que moi j'ai vu en tout cas sur place, est assez impressionnant dans ce qu'on peut demander à cet assistant de coder et le résultat qu'il produit. Ça reste au stade encore un peu expérimental, je trouve, mais les résultats sont assez bluffants et pourraient permettre aux codeurs de ne plus vraiment être des codeurs, mais simplement des relecteurs de code, ce qui changerait quand même pas mal le métier, potentiellement les formations liées à ce genre de métier aussi, dont on parle beaucoup ces temps-ci. Dernière chose peut-être à noter dans les innovations, c'est ce qui est lié à Vertex AI. C'est sa plateforme qui permet aux entreprises de déployer leur propre modèle d'intelligence artificielle et à les connecter à leurs données pour créer des agents conversationnels. C'est assez impressionnant.
Donc on a compris plus de flexibilité dans l'informatique, mais concrètement pour des entreprises qui ne sont pas dans ce domaine, est-ce qu'il y a des applications plus pratiques à ce modèle?
Pour l'instant, on sent quand même que la cible, ce sont les grandes entreprises. Et donc, je trouve que dans les applications qui sont proposées, dans les innovations qui sont proposées, elles sont très complexes. Elles s'adressent vraiment à des grandes entreprises, des grosses structures qui ont beaucoup d'équipes pour chaque département, que ce soit pour le marketing, que ce soit pour le développement informatique, pour la gestion aussi d'un système informatique d'une entreprise. C'est pas forcément le cas dans une PME, où c'est plutôt le CEO qui va chapeauter ce type de projet, ou un marketing manager quand il y en a un. Mais à ce stade, je trouve que toutes les innovations sont vraiment dédiées aux grandes entreprises et clairement, on sent que les petites arriveront après et pourront bénéficier de ce qui a le plus de succès ou qui est le plus simple à utiliser. Mais là, à ce stade, Google veut augmenter ses parts de marché pour rattraper son retard sur Microsoft et sur AWS, Amazon Web Services. Sur le marché du cloud aujourd'hui, donc c'est Amazon Web Services qui est en tête avec 34% des parts de marché. On a Microsoft qui suit avec 24% et enfin Google avec 12%.
Et cette stratégie est la bonne, en tout cas, Brad Calder, le vice-président de Google Cloud, en est convaincu.
Je crois vraiment que cela nous place en tête. Je ne pense pas que vous ayez vu quelque chose de comparable chez Amazon ou encore Azure de Microsoft. Nous rassemblons en fait la plateforme la plus capable en termes d'intelligence artificielle. Du moins dans mon domaine spécifique, l'analyse, je n'ai rien vu de tel. Et puis aussi dans d'autres aspects en termes de comment nous rendons réellement autonome l'intelligence artificielle. Il faut aussi mentionner la sécurité, ce que nous faisons en termes d'intelligence artificielle sur les menaces, la capacité à raisonner sur les vulnérabilités, etc.
Que les députés européens aient adopté la première législation au monde encadrant le développement de l'intelligence artificielle en mars dernier, cela peut-il complexifier la tâche de Google ?
Alors oui, mais plus sur papier, je trouve, les différentes législations européennes qui sont liées au secteur technologique ont toutes pour objectif final d'essayer de briser cette hégémonie des géants de la tech sur les services numériques, pas que Google évidemment. Dans les faits, on est encore très loin d'un potentiel démantèlement et d'une séparation des activités, comme ça a été souvent évoqué. On reste sur des mastodontes technologiques dont les services touchent tous les pans d'une vie, qu'on soit un utilisateur lambda ou un utilisateur professionnel. Et une fois qu'on est dans un écosystème, qu'on ait une philosophie ouverte comme Google ou plutôt fermée comme Microsoft, on est quand même d'une certaine façon coincé dans cet écosystème.
Et puis difficile de dire qu'on est en position de monopole quand le marché se structure finalement aujourd'hui autour de l'IA et du cloud.
Oui, mais ces entreprises ont un énorme avantage, c'est qu'elles se sont tellement imposées dans la vie de tous les jours de l'utilisateur lambda et des entreprises qui insérer de l'IA et du cloud est très facile. On propose un service supplémentaire à un abonnement global qui existe déjà, qu'on a déjà, on ne doit pas changer de fournisseur, donc c'est très simple. Aller aujourd'hui chercher un nouveau fournisseur cloud que personne ne connaît ou choisir un modèle d'intelligence artificielle dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, on va préférer faire confiance à son fournisseur historique. C'est pareil quand on est un utilisateur, par exemple, d'un fournisseur télécom. Le pas du changement est toujours très compliqué à faire et c'est aussi le cas pour une entreprise, surtout quand on parle de contrats qui sont extrêmement lucratifs et qui coûtent très cher à une entreprise.
Investir dans l'IA et dans le cloud, est-ce parce que les autres services, les services plus classiques de Google, ont été affaiblis par les législations mises en place?
Il y a de ça effectivement, parce que les algorithmes sont sous surveillance aujourd'hui. Les plateformes doivent expliquer le fonctionnement de leur système de recommandations, proposer des alternatives sans les personnaliser. Et c'est effectivement pour ça aujourd'hui que Google ne peut plus, par exemple, automatiquement proposer l'accès à Maps quand vous recherchez un endroit dans son moteur de recherche. Vous devez le réactiver vous-même. Pas de quoi forcément déforcer son statut d'ultra-leader dans les moteurs de recherche pour le grand public. Mais il y a effectivement un peu de ça et on tend en tout cas vers ça et on essaye d'arriver vers ça. Mais le chemin est encore très long et il n'est pas du tout certain qu'on arrive vraiment à briser cette hégémonie et à séparer tous ces services. Ce qui pour l'utilisateur n'aurait pas forcément beaucoup de sens.
Est-ce que c'est aussi risqué pour Google de changer de modèle finalement sur l'activité uniquement moteur de recherche? Les revenus sont issus de liens sponsorisés en particulier, eh bien l'utilisation de l'intelligence artificielle pourrait limiter le nombre de clics sur ces liens.
Mais il ne faut pas se leurrer, Google ne change pas de modèle économique. Google reste un modèle économique basé sur la publicité en ligne. Ça restera le cas, IA ou pas IA. La stratégie de Google est de dire, il y a une autre opportunité business, on peut aller la saisir, nos concurrents sont en train de la saisir, on doit être présent aussi. Et Google surtout se rend compte d'une chose, c'est que, étant en retard sur l'intelligence artificielle grand public, elle va l'insérer petit à petit dans son moteur de recherche, qui restera le moteur de recherche préféré des gens dans les prochaines années, a priori, sans prendre trop de risques. Mais par contre, va faire le travail d'expérimentation et de recherche profonde sur l'intelligence artificielle au sein de ses outils professionnels destinés aux entreprises. C'est là aussi où les capacités d'innovation sont les plus importantes. Un moteur de recherche, on peut le booster avec de l'IA, on peut l'augmenter, mais on ne va pas révolutionner son fonctionnement. Par contre, avec l'intelligence artificielle, on peut révolutionner le fonctionnement du travail en entreprise. Ça, c'est certain.
Merci Maxime Samain d'avoir été avec nous. Un dernier mot, le patron de Google Cloud, qui se doit de révolutionner l'entreprise et promis un bel avenir.
Effectivement, on l'annonce en tout cas comme le futur patron de Google. Il pourrait suivre la même trajectoire en fait que Satya Nadella chez Microsoft, qui a aussi dirigé la division cloud, l'a rendu rentable, profitable, et ensuite est devenu patron de chez Microsoft. C'est possible, c'est une possibilité, c'est en tout cas l'homme en vue chez eux. On l'a senti à Las Vegas, c'est lui qui était au premier plan, c'est lui qui était sur scène, pas le CEO Sundar Pichai. Donc on voit qu'il y a une sorte de montée en puissance de ce vieux brigand de la tech américaine.
Donc la succession se prépare. Merci beaucoup Maxime. Voici à présent ce qu'il faut retenir de cet épisode en 3 points. Google mise sur l'IA et le cloud dans le milieu professionnel pour son futur. Sans changer son modèle économique, l'entreprise change de stratégie. Et le chemin est encore long pour attraper ses concurrents Microsoft et Amazon. Belle journée à tous, merci, on se retrouve très vite.
À la Banque Van Breda, vous méritez plus d'équilibre financier. Plus d'équilibre financier pour vous et votre entreprise pour pouvoir vous concentrer sur votre équilibre vie professionnelle, vie privée. Vous méritez également plus de Banque Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.